Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى.
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé mâle et femelle. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 16 Mordad, 1400 du calendrier iranien, 7 août 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Les puissances étrangères ne sont pas les bienvenus dans le golfe Persique, a déclaré le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran avertit d'une réponse décisive en cas d'offensive ennemie. La République islamique d'Iran appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à faire face à l'aventurisme d'Israël dans la région. Et le Hezbollah libanais promet de riposter avec force aux attaques israéliennes contre le Liban. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran est prêt à donner une réponse décisive à toute offensive ennemie, a déclaré samedi le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran a déjà réussi son examen et n'a pas besoin d'un deuxième examen. Mais s'ils le veulent, vous pouvez vérifier à nouveau l'Iran, a déclaré le général Hajizadeh en réponse à une question sur les accusations sans fondement des États-Unis et du régime sioniste à propos du pétrolier Mercer Street. Selon le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, ils ont déjà vérifié et sont au courant de la réponse de l'Iran. Il a promis de répondre sévèrement à toute attaque. La République islamique d'Iran a rejeté comme non fondée une déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7 qui accusait Téhéran d'une récente attaque contre un pétrolier géré par Israël au large d'Oman. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'un tel incident, quelques jours seulement avant la prestation de serment du nouveau président iranien, était un scénario monté par Israël. Saïd Khatibzadeh a déclaré que ce n'était pas la première fois que le régime israélien recourait à un tel complot pour attiser les tensions dans la région. Il a ajouté que l'Iran s'est engagé à assurer la sécurité de la voie navigable stratégique du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations unies a appelé le Conseil de sécurité à rejeter les allégations fallacieuses d'Israël et à faire face à son aventurisme dans la région. Dans un tweet, Majid Tartaravanchi a noté que le régime israélien et ses alliés avaient fait une tentative avortée de présenter de fausses informations sur l'incident du pétrolier Mercer Street au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, a déclaré que ceux qui cherchent à normaliser leurs relations avec le régime israélien réaliseront bientôt leur erreur, car le régime sioniste ne s'est jamais engagé dans un accord. Ebrahim Raisi a fait cette remarque lors d'une réunion avec le secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine, Talal Naji. Il a déclaré que la résistance est le seul moyen de gagner contre Israël, soulignant le besoin d'unité entre toutes les factions du mouvement de résistance. Talal Naji, pour sa part, a salué les efforts de l'Iran pour préserver la stabilité et la sécurité dans la région. Ebrahim Raisi a prêté serment jeudi pour être officiellement investi en tant que 8e président de la République islamique d'Iran. Jusqu'à présent, il a tenu plusieurs réunions avec des responsables de différents pays. Les États-Unis ont appelé le gouvernement libanais à empêcher le mouvement de résistance du Hezbollah de tirer des roquettes sur Israël. L'appel du département d'État américain intervient après que le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, a déclaré que le mouvement était prêt à frapper à nouveau Israël si le régime sioniste lançait de nouvelles attaques contre le Liban. Le Hezbollah a tiré vendredi des dizaines de roquettes sur des zones ouvertes autour des fermes de Sheba occupées par Israël. La résistance islamique libanaise a affirmé que les tirs de roquettes étaient une réponse aux frappes aériennes d'Israël. Le président du Parlement libanais a soutenu la décision du Hezbollah, affirmant qu'Israël ne comprend que le langage de la force et de la résistance. Selon un communiqué du Hezbollah, en riposte aux frappes aériennes d'Israël menées dans la nuit de jeudi à vendredi, les groupes Ali Kamel Mohsen et Mohammad Rasem Tahan, affiliés à la résistance, ont bombardé vendredi 6 août des zones près des positions de l'armée d'occupation d'Israël dans les hameaux de Shaba par des dizaines de roquettes de 122 mm. En Iran, le porte-parole du Conseil des gardiens de la Constitution a souligné que la réunion du secrétaire général de l'OPEP avec le secrétaire du Conseil des gardiens de la Constitution avait été fructueuse. Interrogé sur la réponse du secrétaire général de l'OPEP concernant la coordination du retour du pétrole iranien vers les marchés d'exportation une fois que les sanctions seront levées, le porte-parole du Conseil des gardiens de la Constitution a souligné que diverses approches, défis, les sanctions et la coopération mutuelle ont été discutées lors de la réunion entre le secrétaire du Conseil des gardiens, l'ayatollah Ahmad Jannati, et Mohammad Sanoussi Barkindo, secrétaire général de l'OPEP. Les deux parties ont également souligné la levée des sanctions américaines contre la République islamique d'Iran, la vente du pétrole iranien ainsi que son exportation. Les talibans se sont emparés samedi de la ville de Shebergan, deuxième capitale provinciale, a tombé à leurs mains en moins de 24 heures. Si la ville de Shebergan devait rester aux mains des talibans, ce serait un nouveau revers pour le gouvernement qui a récemment fait appel aux anciens chefs de guerre et à diverses milices pour tenter d'endiguer l'avancée des forces des talibans. Les talibans se sont rendus maîtres vendredi d'une première capitale provinciale, Zaranj, sans réelle résistance des forces afghanes déjà occupées à défendre plusieurs autres capitales provinciales à travers le pays. Ils se sont emparés ces trois derniers mois de vastes territoires ruraux et dirigent désormais leurs offensives sur les grandes villes de l'Afghanistan, encerclant plusieurs capitales provinciales comme Kandahar et Herat, deuxième et troisième villes du pays. Et enfin, sachez que l'ambassadeur palestinien auprès de l'Organisation des Nations Unies a condamné l'inaction de la communauté internationale face à ce qu'il a appelé les crimes graves du régime israélien contre les civils palestiniens. Riyad Mansour a fait cette déclaration dans des lettres séparées adressées au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'au président du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a déclaré que la communauté internationale restait silencieuse sur le meurtre des Palestiniens innocents malgré les appels répétés de plusieurs nations et gouvernements. Riyad Mansour a exhorté l'Organisation des Nations Unies à tenir Israël pour responsable du meurtre des Palestiniens, ajoutant que l'absence de punition a encouragé le régime sioniste à poursuivre ses atrocités dans les territoires occupés. Il a noté que les agressions des colons et des forces israéliennes ont atteint un niveau sans précédent, entraînant la mort de nombreux civils palestiniens et la confiscation de leurs avoirs. Le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que le golfe Persique et le détroit d'Ormuz étaient totalement sécurisés, soulignant que les puissances étrangères ne sont pas les bienvenues dans la région stratégique du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Il y a une sécurité totale dans toutes les frontières maritimes du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Et nous sommes toujours prêts à assurer la sécurité des intérêts de la République islamique d'Iran dans les eaux internationales, a déclaré le contre-amiral Alireza Tanksiri. Il a ajouté que l'Iran surveille pleinement les mouvements de chaque navire qui entre ou sort du détroit stratégique d'Ormuz. Il a souligné que l'ennemi sait que ses mouvements sont sous surveillance et qu'il recevra un avertissement sérieux s'il commet le moindre acte de violation des droits de l'Iran. Le commandant des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les pays musulmans du golfe Persique sont chargés de maintenir la sécurité de la région et n'ont pas besoin de puissance étrangère à cet égard. Il a ajouté, « Le golfe Persique est notre maison et non un endroit pour les étrangers. » Fin de citation. Le corps des gardiens de la révolution islamique est très sérieux dans la sauvegarde des intérêts de la République islamique d'Iran et de ses frontières, a déclaré Tanksiri, soulignant que nous ne prenons aucun risque avec qui que ce soit à cet égard. Nous restons fermes et nous tiendrons jusqu'à notre dernier souffle, a-t-il ajouté. Les tensions montent dans la région à la suite d'une attaque présumée de drones la semaine dernière contre le pétrolier géré par Israël, Mercer Street, au large de la côte omanaise, où deux membres d'équipage ont été tués. sans aucune preuve, les États-Unis, Israël et la Grande-Bretagne ont blâmé l'Iran pour l'incident. Mais l'Iran rejette catégoriquement toutes ces accusations. Parallèlement, des sources maritimes ont rapporté mardi que le pétrolier Asphalt Princess, battant pavillon panaméen, avait été saisi au large des Émirats arabes unis lors de l'ouverture du détroit d'Ormuz, l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde, accusant l'Iran d'être à la traîne. Les autorités britanniques ont déclaré un jour plus tard que le détournement potentiel du navire battant pavillon panaméen avait pris fin sans donner plus de détails. Dans une lettre adressée mercredi au président du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, la représentante permanente adjointe de l'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies, Zahra Ershadi, a mis en garde contre les récentes tentatives suspectes de créer des incidents maritimes fabriqués dans le golfe Persique et dans la région au sens large, depuis que les États-Unis et leurs alliés ont accusé l'Iran d'avoir attaqué contre le navire géré par Israël, exhortant à mettre fin rapidement à ces actes irresponsables qui nuisent à la paix de la région. Citant une source bien informée, Nour News, un média proche du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, a déclaré que le pays donnerait une réponse ferme et écrasante à toute mesure prise contre ses intérêts nationaux et sa sécurité, soulignant que les États-Unis et la Grande-Bretagne devraient subir les conséquences de la prise de telles positions contre Téhéran.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. Si vous avez suivi l'actualité de concernant le Liban, vous en êtes rendu compte que ces derniers jours, le régime israélien a mené des agressions à plusieurs reprises contre le Liban, contre le territoire libanais. Il y a eu tout d'abord cette réaction du côté du président libanais Michel Aoun qui a dit que voilà, ces agressions israéliennes constituent une violation flagrante de la souveraineté des Libanais et également une violation flagrante du droit international. Mais la riposte de la résistance libanaise, le Hezbollah, est tombée aujourd'hui même. Le Hezbollah de Libanais a visé des cibles israéliennes dans les fermes de Shebaad, le Hezbollah libanais, qui a en fait publié un communiqué dans lequel il a revendiqué la responsabilité de ses tirs de roquettes et de missiles. Le régime israélien, très particulièrement le colonie israélienne, se trouve dans un état panique. C'est de ce sujet qu'on va vous parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités, d'autant plus que la résistance palestinienne, le Hamas également, a réagi à cette riposte du Hezbollah libanais. Le Hamas qui a salué la riposte de la résistance libanaise et le bombardement des cibles israéliennes par le Hezbollah en réponse aux crimes et aux agressions israéliennes contre le territoire libanais. On va vous proposer maintenant un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Comparé à ce triple tir de missile qui a visé ce mercredi de façon parfaitement éclair Kiryat Shmona en Galilée occupée, provoquant un incendie non loin de la principale base de l'armée sioniste qui venait d'y tenir un exercice géant anti-Hezbollah, incendie que la presse israélienne a totalement minimisé, mais qui a tout de même fait un bilan officiel de 4 blessés, avec en toile de fond une panique pas possible dans les rangs des colons qui couraient dans les quatre sens se mettre à l'abri, les raids aériens de ce jeudi matin qu'a lancé Israël en toute précipitation contre le sud du Liban constituent un méga ratage. Certes, Avishai Adraé, porte-parole d'une armée israélienne qui, totalement paniquée, a procédé mercredi et dans un premier temps à des tirs aveugles d'artillerie visant les terrains vagues dans le sud du Liban, s'en est bien vanté ce matin en tweetant « Nos raids contre le Liban se poursuivent et iront s'amplifier pour contrer des attaques terroristes, mais même les Israéliens se moquent bien de cette assertion. » L'analyste de Yediot Aharonot allant même jusqu'à dénoncer un trio Bennett-Koshavi-Kantz qui fait une tempête dans un verre d'eau et qui ne fait que frapper des terrains vagues quelque part dans la banlieue de la ville d'Al-Mahmoudia uniquement pour dire que tout va bien dans les meilleurs du monde et que la situation est sous contrôle. Or, tout échappe au contrôle. À peine quelques heures avant que le tir de roquette intelligente contre la Galilée n'ait lieu, les sources militaires syriennes ont fait état d'une opération Syrie-Hezbollah-Iran parfaitement inouïe, à laquelle le président Assad a assisté lui-même. Il s'agissait en effet de prouver à Israël en premier et aux Américains en second lieu que leur agissement destiné à se réaccaparer du ciel du Levant et de l'Iran sont inutiles et que l'US Air Force et l'US Army, une fois réimplantés en Jordanie, ne sauraient reprendre le terrain perdu. Aviapro, lui, tient à y porter une précision en affirmant qu'Alep n'est pas sa zone d'opération favorite et que ce coût d'interception et de destruction d'un drone, dont le coût est de 200 millions de dollars, c'est l'Iran et le Hezbollah et l'armée syrienne qui sont derrière, on le croit à la lettre.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission auprès de le débat. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités déjà avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, c'est un spécialiste français des questions internationales, un analyste politique qui est avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. Monsieur Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Neurostine. Bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Devollet de Damas.
Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet, ce qui se passe actuellement entre le régime israélien et la résistance libanaise. La résistance libanaise qui a en fait publié un communiqué. Et ce que qu'on en fait tire de ce communiqué du Hezbollah libanais, c'est le message suivant. Tire contre le tir, cible contre la cible, Monsieur Dortiguier.
Eh bien, naturellement, ces échanges de tirs disons, entre le régime israélien et puis la résistance générale, la résistance du Hezbollah en premier, sont d'abord la marque évidente de la faiblesse de la stratégie israélienne qui, naturellement, à ces temps, nous semble avoir entrepris cette attaque pour des raisons vraiment de politique. C'est votre communiqué, votre commentaire a parlé justement de ce groupe autour de Bennett, de Gantz, etc., de Gantz. Et en effet, ils ont, disons, peut-être voulu montrer, disons, là, une certaine autorité sur le plan intérieur, et ils ont utilisé peut-être cette offensive entre guillemets sur le Liban qui a échoué naturellement. Mais ce que nous voulons mettre aussi en relief, c'est cette déclaration très importante à laquelle vous avez fait allusion du président Aoun, disant que les Israéliens pouvaient viser, disons, ou une sorte d'intensification de la lutte contre le Liban. Je crois que c'est le Liban lui-même qui est touché, qui est, assailli après avoir été secoué économiquement, financièrement, et que monsieur le président Aoud a d'ailleurs quitté la date de 2006. Mais il faut, dit-il, remonter jusqu'à 2006 pour voir une telle opération qui vise des villages libanais. Il n'a pas dit qu'il avait touché des villages libanais, proprement dit, sauf ce qui a été vu dans cette localité. Mais que je pense que l'état-major libanais a bien compris qu'il s'agit là, disons, d'une préparation aussi, certainement, d'une préparation du régime israélien à des coups portés contre ce que le régime israélien estime le maillon le plus faible aujourd'hui de l'axe de la résistance. Il se trompe d'ailleurs, mais il le croit, c'est-à-dire le Liban, à cause justement de l'état économique, l'état financier dans lequel se trouve le pays. Je crois que les Israéliens confondent l'état terrible du Liban aujourd'hui avec la volonté de résistance. Au contraire, il semble, nous en sommes sûrs, que c'est cet état, justement, cette attaque économique et financière contre le Liban qui ne fait qu'accroître, justement, la volonté de participation du Liban à l'axe de la résistance. En ce sens, disons, nous sommes persuadés, au vu de ces événements, que si le régime israélien ne veut pas désarmer, la résistance elle-même ne désarme pas.
Maître de Tevelet, et vous, évaluez-vous cette riposte du Hezbollah libanais, de la résistance libanaise aux agressions israéliennes?
Écoutez, tout d'abord, il faut regarder les choses en face. Les Israéliens auraient mieux fait de rester, si je puis dire, stoïques, eu égard à ces allégations de roquettes ayant été tirées sur leur territoire. Au niveau de la communication, les choses eût été perçues différemment. Surtout quand on entend l'état-major sioniste se vanter de leur supériorité militaire contre toute agression, hein, je cite. Et en fait, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que, indépendamment de l'origine de ces tirs de roquettes qui auraient ensuite justifié les représailles de l'aviation israélienne, no less, se faisant donc violent, encore une fois, l'espace aérien libanais, le Liban qui traverse, qui plus est, une situation extrêmement difficile. Mais là où on pourrait penser que les Israéliens tirent profit de cette situation, de cette vulnérabilité d'apparence, en tout cas, la résistance libanaise s'est empressée d'envoyer un message très clair que toute tentative d'exploitation de la situation au Liban par l'armée israélienne sera punie immédiatement. J'ajouterai à cela que cette représaille de la résistance libanaise a été coordonnée avec une représaille de Damas, de la direction à Damas, qui a effectué des tirs de semonce, ou en tout cas des tirs d'artillerie, dans le plateau du Golan occupé. Ce qui envoie un message très clair à Tel Aviv que cette stratégie de la résistance qui maintenant consiste à coordonner ces représailles de telle sorte que les fronts simultanément peuvent s'enflammer d'un coup, n'est pas de la rhétorique, mais est quelque chose qui est parfaitement réel et que l'état-major sioniste devrait définitivement garder à l'esprit, nonobstant la situation en interne en Palestine occupée, qui, à mon avis, a aussi quelque chose à voir avec cette espèce de fébrilité à laquelle nous assistons de la part de Tel Aviv.
Maître de Volet, vous êtes à Damas. Vous avez dit que voilà, il y a eu une coordination entre le Hamas et le Hezbollah libanais pour cette riposte aux agressions israéliennes. Est-ce qu'il y a eu, d'après vous, également une coordination avec le gouvernement syrien au niveau de Damas?
Bah, écoutez, il est difficile d'imaginer que la coïncidence entre la représaille provoquée par la résistance libanaise et les tirs provoqués en provenance de la Syrie sur son territoire qui perdure, en tout cas occupé, qui est le plateau du Golan, soit une coïncidence. Moi, je n'y crois pas du tout. Cela correspond exactement à une réponse mesurée, ciblée et symétrique dans le temps par rapport à l'agression israélienne toute récente. Et dans ce contexte-là, il est parfaitement, difficile à croire qu'il n'y aurait pas eu une coordination entre les différentes factions de la résistance. C'est évident, la situation régionale est extrêmement tendue actuellement. Tous les théâtres d'opération sont en état d'alerte maximale. Et dans ce contexte-là, il est important de souligner que la résistance est prête à faire face à toute provocation, quelle que soit l'origine et quel que soit le théâtre d'opération. C'était important de le préciser, parce qu'on aurait pu penser avec les événements récents, effectivement, que l'opinion publique internationale serait amenée à penser que la résistance était faible. Il n'en est rien, la résistance n'est pas faible du tout, elle est prête à plus que jamais à défendre ses intérêts. Et il ne faut pas croire que la situation économique du Liban, pour ne citer qu'elle, résume en quoi que ce soit la capacité militaire de la résistance, non seulement libanaise, mais de la résistance dans son ensemble, à monter des opérations de représailles lorsque les circonstances le dictent.
Monsieur Dorsiguet, est-ce également de votre avis, il s'agit d'une réponse mesurée, d'une réponse coordonnée, bien calculée, une réponse en fait fournie par des différentes factions de la résistance, comme l'a dit Arnaud de Vollet?
En effet, je suis tout à fait d'accord avec cette observation. Il s'agit là d'une résistance tout à fait mesurée, symétrique, etc. C'est tout à fait vrai. Et c'est justement, disons, ce qui contraste avec cette offensive, on peut dire du régime sioniste. Oui, je dirais, pour être plus précis, que c'est véritablement le milieu autour de Gantz et de ceux qui viennent d'accéder au pouvoir avec Bennett. Je crois qu'il s'agit là de la part des Israéliens, non pas d'une opération mûrie d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, rodomontade, comment dire en français, c'est-à-dire de vouloir... C'est un effet, disons, sur l'opinion publique israélienne. Je crois du reste que le journal qu'a cité votre présentatrice, et qui parle d'une agitation dans un verre d'eau, quelque chose comme ça, le journal sioniste, bien sûr, pour montrer que ce qui a été provoqué par cette offensive, enfin cette opération militaire israélienne, s'est soldée en retour, justement, par quand même une réponse ciblée, mesurée, c'est réellement, mais quand même efficace et visible, voyez-vous, qui montre justement que ce bluff-là, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, véritablement n'est qu'à usage intérieur. Je dirais à usage intérieur plus que véritablement marquant une stratégie possible. Les Israéliens savent très bien, les états-majors, je veux dire les militaires, connaissent très bien la coordination dont a parlé Maître de Velay. Et je dirais que donc, il y a, c'est malheureux de dire ceci, évidemment, à travers des opérations militaires, mais il y a une part de bluff, disons, de la part de la nouvelle équipe sioniste contre une bluff à destination de sa propre opinion publique, laquelle, à notre avis, ne s'est pas trompée.
Maître de Vollet, s'agissant de la nouvelle équipe sioniste à laquelle fait allusion Pierre Dorsiguet, toujours à propos en fait de cette riposte du Hezbollah libanais, les médias israéliens ont indiqué tout à l'heure que voilà, les commandants de l'armée israélienne et les responsables politiques du pays sont en cours de consultation et ils se penchent à ne pas en fait agir de manière à ce que leur réaction mène à une escalade avec le Hezbollah libanais. Maître de Vollet, les responsables israéliens se trouvent dans un état de panique et de désorientation totale, n'est-ce pas?
À tout le moins, c'est un signe de fébrilité intense. On a l'impression que cette nouvelle équipe, c'est un petit peu le leitmotiv, cherche un petit peu ses repères, ses marques, ne semble pas trop savoir quoi faire de la situation militaire telle qu'elle existe sur tous les fronts. Mais en même temps, elle est consciente qu'il ne faut surtout pas répéter les erreurs qui ont mené à leur défaite lors de l'opération de l'épée d'Al-Houth. En même temps, je pense qu'il y a un gros problème interne à l'entité sioniste Ça ne semble peut-être pas avoir de rapport direct avec le sujet d'aujourd'hui, mais la crise sanitaire, visiblement telle qu'elle est gérée, semble avoir des ratés. Et je pense qu'il est question maintenant d'un peut-être un nouveau confinement ou en tout cas d'un rétablissement de ce pass vert, de ce pass sanitaire. Donc, la nouvelle équipe qui n'a pas d'expérience en tant que telle, qui est plutôt une coalition composée de briques et de brocs, se retrouve tout d'un coup, après avoir fait tout le nécessaire possible autour d'un seul point de consensus, qui était celui de faire opposition à la reconduite de Netanyahou et de son équipe à lui, visiblement, semble être dans une situation où ils doivent gérer une situation sans précédent, sans avoir forcément l'expérience pour le faire. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, je pense qu'ils se sont dit que pourquoi pas, on va faire diversion et on va essayer de recaler, si je puis dire, le focus sur la préservation de l'intégrité de notre territoire pour montrer à la population que nous veillons au grain et que nous, leurs intérêts sont les nôtres. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus il se développe un fossé entre les élites sionistes et leur population. Et ça, c'est une situation qu'il va falloir garder à l'œil parce que ça peut porter sur une situation ensuite de fuite en avant pour les élites sionistes qui leur ferait faire plus d'erreurs encore.
Monsieur Dortiguet, c'est le temps de l'immunité de l'armée israélienne, du régime israélien, pour mieux dire, le temps de ce mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne est-elle bel et bien révolue?
Oui, en effet, on peut dire que c'est, le temps est passé, le temps est révolu, forbye, comme on dit en allemand, que cette armée, disons, pouvait porter des coups et puis ensuite tenir, disons, son pays derrière un bouclier, etc. Tout ceci, c'était un... Ça a été une réalité à un moment donné, bien sûr, mais c'est un mythe, bien sûr, qui a été détruit par justement la durée même de l'agression et de l'agressivité sioniste. C'est elle qui a renforcé justement ses adversaires et les a amenés justement à une coordination tant sur le plan intérieur, à l'intérieur des frontières, qu'à l'extérieur des frontières. N'oublions pas que l'occupation, la formation de cet État, dans des conditions que l'on sait, touche quand même en premier un ancien grand pays qu'on appelle la Syrie, dont la Palestine étant, que je dis quelquefois, c'est le congrès de Jéricho des Palestiniens qui l'a dit en 1948, une partie de la Syrie méridionale. Voyez-vous, c'est le même pays, comme le Liban, ce sont des États différents, bien sûr, mais ce serait quand même le même peuple. Et donc, ce que les Israéliens ont sous-estimé toujours, c'est qu'ils n'ont vu que leurs propres victimes à l'intérieur de leur territoire, ou tout au moins aux alentours de leur territoire, dans les camps de réfugiés, ils n'ont pas vu qu'ils avaient affaire à un peuple complet, un peuple déterminé, dont les Palestiniens forment une partie. Ça, je crois que cette réalité, disons, l'a emporté. J'ajouterai à peine un détail pour parler de cet irréalisme aujourd'hui israélien, c'est le fait que dans cette affaire dont nous parlons, Monsieur Gaines, par exemple, s'en soit pris à la finule, ce qui est absolument absurde, c'est-à-dire à cette force justement d'interposition. Et il n'avait absolument aucun dossier, disons, à produire. Mais ce sont des paroles en l'air. Je crois que on peut espérer. Ce n'est pas une question d'espoir. On ne peut que déduire de la situation actuelle, logiquement, qu'on assiste à un effritement, disons, de cette certitude impériale, cette certitude, disons, orgueilleuse qu'avaient les Israéliens au départ. Et ils sont obligés, évidemment, vivant dans des circonstances de l'Orient, évidemment, à se plier aux réalités, c'est-à-dire au moins à reconnaître qu'ils ont à côté d'eux un peuple, n'est-ce pas, auquel ils doivent des comptes, et même ils doivent également se tenir dans des relations de civilisés, si je puis dire, avec les peuples alentours. Je crois que le temps, va dans ce sens-là.
Merci beaucoup, Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arne Devollet, juriste français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, a déclaré jeudi, lors d'une cérémonie de prestation de serment, que le gouvernement en place, élu par la nation, défendra les intérêts du peuple et rendra justice, et que le nouveau gouvernement soutiendra tout effort diplomatique ou plan visant à éliminer les sanctions. Le président Raisi a fait ses remarques après avoir prêté serment lors de la cérémonie, ajoutant que le 13e gouvernement est le gouvernement du peuple, du bien-être et de l'unité nationale. L'Iran soutient tout projet diplomatique visant à lever les sanctions imposées, a-t-il déclaré. Il a souligné que les Iraniens ont montré à plusieurs reprises qu'ils sont fidèles à la révolution islamique. La politique de pression et de sanctions n'empêchera pas les Iraniens de faire valoir leurs droits légaux, y compris le droit au développement, a-t-il souligné. Le président iranien a en outre déclaré que le pouvoir de la République islamique dans la région était un facteur de sécurité. Les capacités régionales de l'Iran soutiennent la paix et la stabilité dans les pays et sont utilisées uniquement pour contrer la menace des puissances hégémoniques et impitoyables, a-t-il précisé encore. Le président Raisi a appelé à résoudre les crises régionales par le dialogue intra-régional et sur la base de la sécurisation des droits des nations. L'implication de l'étranger dans la région ne résout pas le problème, a-t-il déclaré, notant que leur ingérence est le problème lui-même. Rappelant une fatwa du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, il a souligné que l'Iran considérait le recours aux armes nucléaires comme interdit, mieux connu sous le nom de haram en termes islamiques. Les armes nucléaires n'ont aucune règle dans les stratégies de défense de l'Iran, a-t-il noté, jetant la main d'amitié et de fraternité à tous les États de la région, en particulier les voisins, et je leur serre chaleureusement la main, a-t-il déclaré. Il a qualifié la promotion des relations avec les pays voisins de priorité la plus importante de sa politique étrangère, appelant à la dignité de voisins et renforçant les liens avec eux. Raisi a prêté serment devant le Parlement iranien en présence du chef du pouvoir judiciaire et des membres du Conseil du bien de l'ordre des islamiques et d'invités étrangers venus d'au moins 73 pays du monde. L'ambassadrice représentante permanente adjointe d'Iran auprès des Nations Unies, Zahra El-Shadi, a mis en garde contre les récentes tentatives suspectes de créer des incidents maritimes d'origine humaine dans le golfe Persique et a souligné que de telles actions irresponsables nuisent à la sécurité et à la stabilité dans la région et doivent être arrêtées immédiatement. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU, la représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies a écrit « Je vous écris en référence à la lettre des représentants du Libéria, de la Roumanie et du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord aux Nations Unies datée du 3 août adressée au président de sécurité. » Sans fournir aucune preuve pour étayer leurs affirmations, les
les auteurs de la lettre susmentionnée ont eu recours à des termes vagues tels que de très probablement, estimation initiale et un ou plusieurs UAV, ainsi qu'à une terminologie vague telle que partenaires internationaux pour blâmer arbitrairement la République islamique d'Iran pour l'attaque contre le navire Mercer Street. Cette affirmation sans fondement qui a été avancée pour la première fois à des fins politiques évidentes par le régime israélien et immédiatement après l'attaque est en fait incorrecte politiquement, éthiquement, ethniquement irresponsable et par conséquent catégoriquement rejeté, a écrit la haute représentante iranienne. Avec ses longues côtes et ses nombreuses installations portuaires en mer Caspienne, dans le golfe Persique, en mer d'Oman, ainsi qu'une capacité de trafic maritime élevée, la République islamique d'Iran est très intéressée par la sécurité maritime et la liberté de navigation et attache une grande importance à ces issues. Conformément à cet objectif et à cette politique de longue date et pleinement attachée à ses obligations internationales, l'Iran a également apporté d'importantes contributions à la garantie de la sécurité maritime et de la liberté de navigation. Le déploiement pendant plus d'une décennie des forces navales iraniennes dans l'océan Indien et les régions avoisinantes et l'appui de ces forces aux efforts internationaux de lutte contre la piraterie sont reconnus à maintes reprises par le secrétariat général des Nations Unies dans ses rapports et approuvés par le Conseil de sécurité en ses nombreuses résolutions, a ajouté l'ambassadrice et représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies. Au vu des récentes déclarations provocatrices de responsables israéliens menaçant de recourir à la force en violation flagrante de l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies, il convient de rappeler à ce régime qu'il supportera les conséquences de tous les aventurismes et erreurs de calcul possibles. En avertissant de telles menaces et de quelque source que ce soit, la République islamique d'Iran n'hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger résolument son peuple, protéger sa souveraineté et ses intérêts nationaux, a conclu cette haute diplomate iranienne. Explosion au port de Beyrouth, le Hezbollah appelle à faire la vérité sans céder aux tentatives d'exploitation politique. Le Hezbollah libanais a appelé la justice libanaise à faire la vérité sur la double explosion au port de Beyrouth, dont la première commémoration a eu lieu mercredi. C'est sans céder aux pressions, mettant en garde contre les tentatives d'exploitation à des fins politiques de cette affaire. Après avoir présenté une nouvelle fois ses condoléances aux proches des victimes de la plus grande tragédie nationale ayant frappé le Liban et exprimé sa sympathie aux blessés sinistrés, le Hezbollah a exprimé l'espoir que toute la vérité soit faite sur cette catastrophe en toute transparence et fiabilité, loin de toute récupération politique, règlement de compte, ni conflit interne étroit. Dans un communiqué, le Hezbollah a estimé que ces pratiques risquent d'empêcher toute reddition des comptes. Nous demandons aux autorités judiciaires concernées de traiter cette affaire nationale avec sérieux et responsabilité, sans céder aux pressions, aux intérêts personnels et à dévoiler la vérité devant l'opinion publique et le monde en toute transparence, a encore appelé le Hezbollah libanais. Carnage US, le pain pour les Yéménites en échange de l'arrêt de l'avancée d'Ansar Allah à Ma'arib. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lenderking, a effectué une visite en Arabie Saoudite au cours de laquelle il a discuté du dossier d'économie yéménite, des importations du carburant et du prix des marchandises, des déclarations du département d'État américain citées par la télévision Al-Masira. De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a de nouveau accusé Sanaa de rejeter toute solution politique tout en exprimant le soutien de son pays au plan saoudien pour mettre fin à la guerre et aux droits du royaume à se défendre. Et de faire un lien entre la pire crise humanitaire au monde et la nécessité pour Sanaa de mettre fin à la conquête des terres. Ces déclarations et visites interviennent après l'échec de l'offensive dirigée par l'Arabie Saoudite et les États-Unis à Al-Baizar. Les forces de Sanaa ont réalisé des gains stratégiques majeurs sur le terrain dans cette province riche en pétrole. Pour les observateurs yéménites, les États-Unis entendent exercer du chantage humanitaire et économique sur Sanaa afin d'obtenir des gains politiques et militaires sur le terrain, dont entre autres l'arrêt de l'avancée des forces armées et d'Ansarallah à Ma'rib. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.